Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans l'émission Écho de ma commune et de mon canton. Christophe Lodervan, président du conseil départemental d'Eure-et-Loire, a fêté la semaine dernière la première année de son élection, l'occasion pour lui de revenir sur cette année écoulée et sur les projets du conseil départemental d'Eure-et-Loire. Une longue interview s'en est suivie, menée par votre serviteur et nos confrères de Radio Intensité.
Je n'ai pas appliqué de révolution. C'est plutôt une révolution de salon qu'une révolution jacobine. La politique départementale est dans la continuité de mes prédécesseurs, puisque nous soutenons toujours autant les communes, puisque nous sommes le premier partenaire des communes, avec la politique bourg-centre, avec évidemment l'aide à l'investissement des communes, et puis les propres projets départementaux.
Pour sa première année à la tête du conseil départemental d'Eure-et-Loire, Christophe Lodervan aura sillonné le département dans tous les sens pour tâcher de rencontrer tous les acteurs de la politique du département.
Je vais vous faire un aveu. J'aime beaucoup mon bureau, mais j'aime surtout être sur le terrain. Et le deuxième aveu que je puisse aussi vous faire, c'est que je suis un jeune président, même si c'est éphémère, je suis un jeune président qui a besoin aussi de se faire connaître sur le territoire. C'est vrai que sur le nord de l'Eure-et-Loire, j'avais ma petite notoriété parce que je suis élu local déjà depuis longtemps, mais que le sud de l'Eure-et-Loire ne me connaissait pas. Et donc j'avais besoin aussi d'aller porter la voix du département là où on ne me connaissait pas. Et j'avais besoin surtout d'aller découvrir des territoires et des élus et des habitants que je ne connaissais pas. Et ça tombe bien parce que j'ai d'abord été très bien accueilli partout où je suis allé. J'ai vu des choses que je n'imaginais pas sur le territoire. J'ai vu aussi des gens, des élus extrêmement engagés pour leur territoire et pour les projets de leur territoire. Et puis ça m'a permis aussi de pouvoir affiner notre politique départementale, notamment en matière de patrimoine, puisque c'est en allant sur le terrain et en rencontrant les gens qu'on peut, je ne vais pas dire changer les choses, mais en tout cas affiner nos dispositifs et affiner nos politiques.
Ces déplacements vous ont donné peut-être permis d'avoir une vision globale de ce qu'est l'Eure-et-Loire, de ce que sont ses chances, et puis aussi de tout ce qui reste à faire. C'est un département qui a des arguments à faire valoir.
Ah oui, complètement. C'est effectivement en allant partout sur le territoire. Tout à l'heure, je vous disais, j'ai fait presque 50 000 kilomètres en une année. Et encore, l'été, j'ai moins voyagé que sur les autres mois. Mais je considère qu'il n'y a qu'en faisant ces voyages, en faisant en tout cas ces visites sur le terrain, que l'on peut s'enrichir de ce qui est fait partout. Alors, c'est pas forcément une vision globale, mais plutôt une vision diverse. Tous les territoires ont des besoins, alors quelquefois des besoins communs, mais aussi des besoins qui sont propres à leur terroir, propres à leurs habitants, propres quelquefois à l'âge de leurs habitants aussi, et puis au tissu économique.
Le président du conseil départemental s'est ensuite exprimé sur les points forts de l'année écoulée.
Alors, le point fort et l'élément qui m'a le plus marqué, c'est la sérénité retrouvée dans cette collectivité, avec notamment le vote du budget à l'unanimité, du budget primitif, et il y a encore quelques jours, le vote à l'unanimité du budget supplémentaire. Ça, c'est pour moi effectivement ce que je retiens d'éléments majeurs de cette année de mandat. Une vraie sérénité avec une diversité d'opinions, hein, parce que nous ne sommes pas d'accord sur tout le temps, mais on est d'abord d'accord sur l'essentiel, et puis la contradiction n'apporte rien d'autre que de grandir et de faire grandir nos projets.
Le budget le plus important de tout temps, finalement, du département, c'est l'action sociale. L'action sociale, notamment vers les enfants, mais aussi vers les personnes âgées. Et là, vous avez montré beaucoup de caractère et vous allez continuer à le faire en nous disant que vous allez, le département se donnait finalement le droit de contrôler ce qui se passe dans les centres d'accueil, autant pour les enfants que pour les personnes âgées. Vous l'avez redit au Sénat l'autre jour.
Oui, alors effectivement, c'est le social en général est la première dépense en fonctionnement des départements. On aurait pu considérer, mon équipe comme moi-même, que ça n'était qu'une dépense. Et c'est effectivement pas tout à fait connaître mon caractère que de croire cela. Et donc, c'est une matière que je connaissais mal, et donc j'ai eu à cœur évidemment de mieux la connaître, de mieux connaître aussi ses acteurs, de mieux connaître nos équipes, et de pouvoir anticiper aussi tout problème. Vous savez qu'il y a eu il y a quelque temps un problème avec les EHPAD, avec ce scandale bien connu. J'ai effectivement été auditionné au Sénat. Il se trouve que mon prédécesseur avait pris une très bonne initiative en lançant un audit des EHPAD par un cabinet extérieur. On en a fait quelques-uns en interne, mais on n'avait pas la capacité en interne de faire l'audit de tous les établissements. Et donc, ça a été fait en 2019. Et lorsque j'ai pu dire devant les sénateurs, la commission d'enquête, quel était l'état des lieux en Eure-et-Loire, j'ai bien vu que j'intéressais, puisque nous avions un état des lieux extrêmement précis de ce qui se faisait dans ces établissements, de ce qui se faisait de bien, ce qui se faisait de moins bien, et surtout une perspective d'obligation de contrôle. Parce que c'est bien là aussi, c'est comment évaluer une politique publique si on ne fait pas de contrôle. Et ce qui s'applique aux EHPAD, on peut parfaitement l'appliquer à tout établissement social, médico-social. Et il me semble que les établissements dans lesquels nous plaçons les enfants de l'aide sociale à l'enfance doivent être contrôlés dans les mêmes caractéristiques que l'on fait pour les EHPAD.
Une autre compétence traditionnelle du conseil départemental, ce sont les routes départementales. Là aussi, le budget est passé de 35 à 44 millions d'euros. Une volonté ferme d'améliorer le réseau routier, comme nous l'explique Christophe Ledorven.
Ces 44 millions, c'est d'abord 42 millions qui étaient prévus dès le budget primitif. Nous avions passé 37 millions au budget primitif et on s'était dit on rajoutera 5 millions sur une tranche optionnelle au budget supplémentaire. Il se trouve qu'on a dû ajuster aussi nos budgets eu égard au coût des matériaux qui a fortement augmenté. Et donc on arrive effectivement à 44 millions. C'est le prix aussi du rattrapage des années qui ont été, il y a une quinzaine d'années, où on ne pouvait pas investir autant. Et donc nous avons un effet de rattrapage pour que nos routes départementales soient à la hauteur de ce qu'attendent les citoyens.
Deux mots sur les déserts médicaux. Vous l'avez dit tout à l'heure, les départements n'ont pas forcément le levier. Néanmoins, quand on fait preuve de caractère et aussi de solidarité entre les territoires, on peut faire quelque chose. Et vous l'avez prouvé dernièrement.
Alors, je ne dirais pas qu'on ne peut rien faire. Mais effectivement, on peut d'abord avoir mauvais caractère, comme c'est mon cas, et de pouvoir le faire savoir en plus haut lieu et obtenir avec les collègues de la région centre l'ouverture d'une faculté de médecine à Orléans. Donc ça, effectivement, c'est le levier mauvais caractère. Mais sur le territoire, c'est évidemment d'abord de ne pas travailler seul, d'abord d'arrêter de se regarder le nombril et de pleurer sur son sort. Et c'est de pouvoir choyer les professionnels de santé que nous avons sur le territoire pour qu'ils puissent aussi dire à tous leurs collègues ou futurs collègues tout le bien qu'ils pensent de leur Eure-et-Loire. On travaille en grande concertation avec les CPTS sur le territoire, mais aussi avec le président de l'Ordre des médecins d'Eure-et-Loire et tous les professionnels qui veulent qu'on s'en sorte. On n'est pas simplement des financeurs de maisons de santé qui quelquefois sont vides. On est aussi force de proposition. Nous pouvons, par exemple, à notre actif, nous féliciter de la formation des médecins chez nous, au conseil départemental, pour qu'ils deviennent maîtres de stage. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux. Et il n'y a rien de tel qu'un stagiaire qui est formé en Eure-et-Loire pour pouvoir trouver un futur médecin en Eure-et-Loire.
Un élément qui n'est pas forcément connu du grand public, un président de conseil départemental est de facto président de ses pompiers, président des sapeurs-pompiers du département qu'il préside. C'est une fonction qui plaît beaucoup à Christophe Le Dorben.
Effectivement, oui, je suis président du service départemental d'incendie et de secours. Donc c'est 83 centres de secours et d'intervention. C'est un maillage territorial que nous devons à mes prédécesseurs et particulièrement à Martial Taugourdeau. On ne peut que s'en féliciter. Il n'y a pas de petits centres sur le territoire, même quand il y a peu de pompiers volontaires dedans, c'est primordial. C'est souvent ceux qui sont là en premier sur une intervention, alors essentiellement sur un incendie, et c'est ceux qui sont au plus proche de la population parce qu'ils y vivent. Les pompiers professionnels ne peuvent pas tout. Ils sont là essentiellement en journée, essentiellement en milieu urbain, et ils ne peuvent pas tout. Sans le maillage territorial et sans le volontariat, nous ne pourrions pas assurer notre service d'incendie et de secours.
La semaine dernière, le président du conseil départemental, Christophe Le Dorben, s'est aussi exprimé sur l'avenir du département, sur les grands projets qu'il souhaite impulser dans les années à venir.
Alors, les grands projets, nous n'en avons pas parlé tout à l'heure, mais nous avons engagé une démarche qui s'appelle Eure-et-Loire 2040. Encore une fois, c'est lever le nez du guidon et de ne pas être dans la gestion quotidienne pour pouvoir rêver de l'Eure-et-Loire que l'on souhaiterait en 2040, même peut-être en 2050. Il est toujours permis de rêver et après on fait le tri. Et donc là, le cabinet a été recruté, il est en pleine action, il est en pleine audition d'élus partout sur le territoire, pas que des élus départementaux, hein. On interroge, et puis des acteurs économiques, des acteurs sociaux, pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent de cette collectivité, qu'est-ce qu'ils attendent sur leur territoire. Donc ça, c'est un projet majeur. Alors, pour que les gens restent, et puis pour que des populations s'intéressent à l'Eure-et-Loire et viennent s'y installer. Alors pardon, je vais peut-être vous choquer, mais l'attractivité du territoire, c'est aussi de choisir sa population. Moi, j'ai envie d'une population qui ne vienne pas simplement dormir le soir et repartir travailler à Paris ou en région parisienne. Alors évidemment, je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui le font, mais j'ai envie d'une population qui habite le territoire, qui travaille sur le territoire et qui fasse vivre le territoire jour et nuit. Et pas seulement quelques soirées et le week-end. J'ai envie que les commerces de proximité en ruralité continuent à vivre. J'ai envie que nos campagnes, donc les zones rurales les plus reculées de la ville, ne soient pas des maisons de retraite à ciel ouvert, comme aurait dit mon prédécesseur. Voilà, tout ça. Effectivement, le rôle du département, c'est de l'aménager et de le rendre attractif. Attractif pour qu'il soit vivant.
Alors, vous avez parlé aussi tout à l'heure du RSA. Alors, le département ne gère pas, mais il finance le RSA. Ce qui est très intéressant, c'est que ça vous a permis de mettre le doigt sur un énorme problème en France depuis de nombreuses années déjà, mais qui devient de plus en plus prégnant. C'est qu'il y a des emplois, mais des emplois qui ne trouvent pas d'employés. Et ça, c'est un problème, non ?
Alors effectivement, nous sommes arrivés, et j'en discutais vendredi avec le ministre du Travail et du Plein Emploi et de l'Insertion, Olivier Dussopt, c'est que nous sommes arrivés à 8% de chômeurs au plein emploi, ce qui n'est pas acceptable. On a tous appris à l'école que le plein emploi, c'était 4% et pas 8%. Donc ça veut dire qu'on a une inadéquation entre les gens qui cherchent du travail et les postes qui leur sont proposés. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas travailler, je dis simplement qu'il y a une inadéquation. Et puis, nous avons aussi, vous le disiez à l'instant, nous avons aussi beaucoup de bénéficiaires du RSA. Alors, certains sont trop éloignés de l'emploi pour être employables immédiatement sur ces postes à pourvoir, mais d'autres peuvent assez facilement aller sur le chemin. Il faut absolument miser à la fois sur la formation et sur l'insertion. Et c'est ce que j'ai rappelé, et d'ailleurs les associations et entreprises d'insertion du territoire l'ont fait également, c'est ce que j'ai rappelé au ministre du Travail, c'est que en période de plein emploi, comme on est actuellement, on se doit justement de soutenir encore un peu plus l'insertion et la formation, parce que ça serait finalement, si on ne le faisait pas, gâcher toute une partie de personnes employables, enfin, qui pourraient devenir employables et qui ne le sont pas aujourd'hui. On est, pardon de parler comme ça, mais on est, parce que ce sont des personnes derrière, mais on est sur, on est dans le dur, on est sur des gens qui ont besoin de motivation pour aller travailler. Mais quelquefois des gens qui sont simplement cabossés, des gens qui ont perdu confiance en eux, qui ont eu quelquefois des accidents de la vie. Alors oui, il y aura toujours des gens qui ne veulent pas travailler.
Et puis il y a ceux pour qui le RSA, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu la cerise sur le gâteau des trafiquants, mais ça, c'est à l'État de devoir travailler.
Oui, à l'État de prendre ses responsabilités, effectivement, mais... Dieu merci, ça n'est pas la grande majorité des bénéficiaires du RSA. Mais il y a aussi une couverture sociale offerte à des trafiquants par le RSA. Nous n'avons pas le droit, nous, département, de contrôler cela. C'est l'affaire de l'État. J'attends de l'État qu'il soit protecteur pour tout le monde, mais qu'il soit un tout petit peu moins protecteur pour les trafiquants.
Autre volet d'importance de la politique du département, l'entretien des collèges. Et là encore, une politique ambitieuse de rénovation des collèges sera bientôt entreprise.
Oui, tous les collèges qui existeront à la fin du mandat devront être tous soit reconstruits quand il le faut, soit totalement rénovés. Et même ceux qui ont été construits assez récemment devront à la fin du mandat être... j'allais dire proprifié, en tout cas repeint là où il faut l'être et que tous, qu'ils soient élèves, enseignants ou nos propres agents du département qui travaillent dans ces établissements, tous dans de très bonnes conditions de travail.
J'aurais une question à vous poser sur les relations entre le gouvernement et les collectivités locales, que ce soit les communes, mais aussi les départements. On s'est aperçu depuis quelques années, depuis François Hollande, que finalement l'État semble vouloir un peu étouffer les collectivités locales, en asséchant notamment les finances. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est toujours le cas et que finalement le statut du département est très précaire ?
Alors, ce que vous dites de François Hollande est tout à fait exact. Il n'a pas pu tuer les départements, donc il a préféré les asphyxier. C'est une vision socialiste que je ne partage pas, mais c'est la sienne, et je constate qu'Emmanuel Macron, au début de son mandat, a fait la même analyse. Depuis, je dois dire qu'il a pris deux leçons. La première avec les Gilets jaunes, où il a fallu que les élus locaux viennent à sa rescousse pour que la gronde cesse. La deuxième leçon, c'est la crise sanitaire, où là, il a voulu gérer avec Monsieur Véran et son arrogance habituelle. Il a voulu gérer ça depuis Paris, seul, en nous disant que nous étions en guerre, etc. Mais au-delà des paroles, on n'était pas foutu d'avoir des masques, on n'était pas foutu d'avoir des vaccins, on n'était pas foutu de prévoir la vaccination et de savoir comment on allait procéder. Et là, il a fallu qu'il se repose sur les élus locaux. Et curieusement, dès l'instant qu'il s'est reposé sur les élus locaux, on a vu des centres de vaccination fleurir partout sur le territoire, un fort engagement des collectivités, un fort engagement des collectivités mairies, un fort engagement des communautés de communes, un fort engagement aussi des départements et du SDIS, puisque en Eure-et-Loire, par exemple, les pompiers ont participé à deux centres de vaccination, celui de Chartres et celui de Châteaudun. Voilà, c'est dès lors que l'État se rappelle qu'il y a des collectivités territoriales, eh bien les choses vont toujours mieux. Donc j'espère que ça n'est que du passé. En tout cas, les ministres qui se sont succédés depuis un an, puisque j'ai compté l'autre jour, avoir fait 18 visites officielles depuis le 1er juillet 2021.
C'est pas mal.
L'Eure-et-Loire est proche de Paris. Et il y a des sorties d'autoroute. Mais j'ai vu des gens pleinement engagés, j'ai vu des gens déterminés. Et je ne voudrais pas faire croire que les services de l'État sont tous à jeter. L'État sur le territoire, l'État en Eure-et-Loire, c'est pour moi un travail quotidien. Il n'y a pas de feuilles papier à cigarette entre Madame le Préfet et moi, par exemple. C'est du travail quotidien, c'est du travail dans la sérénité et c'est du travail pour les Euréliens. Après, les considérations politiques des dirigeants nationaux, c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, je peux saluer le travail quotidien des services de l'État.
Néanmoins, la dotation globale, elle n'augmente pas. Hein.
Oh. Bah, écoutez, la dotation globale, vous savez, quand on est élu locaux, il y a longtemps qu'on a arrêté de croire au Père Noël étatique, mais il y a longtemps qu'on a arrêté de croire à ce que l'État nous aiderait à surmonter telle ou telle crise. Là, c'est pas parce que les matières premières explosent qu'on va avoir une aide de l'État, mais l'État, c'est nous. Donc, si c'est pour aller creuser un peu plus le déficit de l'État, après tout, réinventons-nous aussi.
Nous terminerons sur cette objurgation, cette auto-objurgation. Réinventons-nous. Nous retrouverons bien évidemment à la rentrée Christophe Le Dorvin, président du Conseil départemental d'Eure-et-Loire, pour une conférence de presse qui sera sans doute l'occasion d'annoncer de nouvelles mesures, de nouvelles politiques publiques départementales pour l'année à venir. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin d'été à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel, bien évidemment.
De suie, sans une ombre de lucre,
Cité des Congo, des Gabon, des Oubangui, Chari et des Côtes d'Ivoire, où de blancs éléphants m'aspergeaient de mémoire. Locomotive d'or. Tchikikon, 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 tchikikon. Locomotive d'or. Tacan, tacan. Je reluquais l'oreille, assis sur ma valoche, et l'horloge vaquait dans l'espace vacant. Le silence avouait quelque chose qui cloche. Locomo. Quand soudain retentit la clameur de Tarzan. Homer. Quand soudain j'entendis un autre son de cloche. Kama. Ha. Tu arrivais enfin du fond du cœur du temps. Comment. Des plumes de vapeur sur ta face de tigre. Comment. Des faisceaux de sagaie, des boucliers de cuivre, locomotive d'or, tacan, 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 locomo, 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 yeah yeah yo yo, yeah 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 yo yo, yeah yeah yo yo, yeah 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 yo yo, yeah yeah yo yo, yeah 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 yo yo, yeah yeah. D'or, de bondir à ton bord me donna même joie qu'au sexe de la femme. Mon corps ne m'aidait plus qu'à survoler mon corps. Ma chair devint esprit et mon âme tam 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 tam. Tam tam. Oui oui, tam tam tam. Tam tam tam. Tam tam tam. Tam tam tam. Partout dedans. Yo 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 y
Kenny Clark riait comme un enfant s'endort. Comme un enfant s'endort. Comme un enfant s'endort. Kenny Clark riait comme un enfant s'endort. Comme un enfant s'endort ayant vu le miracle. Comme un enfant s'endort dans l'œuf ailé de Pâques. Dans l'amour tournoyant. Locomotive, locomotive. Yeah, yeah, yo, yo. Yeah, yeah, yo, yo. Yeah, yeah, yo, yo. Yeah, yeah, yo, yo. Descendre dans la gare divine, dans la gare divine, le chef de gare est aimé. Dans la gare divine, la locomotive d'or va souffler. Comme un enfant s'endort, locomotive d'or.
comme un enfant s'endort. Locomotive.